Voilà, bonjour. Bonjour à tous, bonjour aux enfants qui sont devant, bonjour aux personnes qui sont derrière un écran ou devant, voilà. Ça dépend de quel côté on regarde, hein. Voilà. Et nous sommes rassemblés autour de notre foi commune en Jésus-Christ. Mais une foi qui s'exprime de manière très diverse, la diversité de nos compréhensions, la diversité de notre vécu, la diversité de nos situations de vie. Et puis nous sommes accueillis par un Dieu qui nous accueille là où nous en sommes, là où nous en sommes dans notre parcours de vie, indépendamment de notre situation sociale, de notre nationalité, de notre religion, de notre richesse ou de notre pauvreté. Alors, moi, j'ai été impressionné quand le pape François est mort et quand le nouveau pape Léon XIV a été choisi. J'étais impressionné de voir la place qu'on lui a donnée dans les médias, et non seulement la place, mais le respect. Quelque part, c'est comme si chacun sentait bien que ces hommes qui expriment la simplicité de l'Évangile, les valeurs de justice, de paix, de pardon, étaient inspirés par quelque chose dont notre monde a besoin, qui est complètement à l'opposé de ce que les plus grands dirigeants de la Terre font, de cette recherche du pouvoir, des ambitions et de tout ça, comme si quelque part, en pressant même ceux qui n'ont pas de foi en Dieu, que c'est là, que dans ces valeurs-là, qu'est le salut du monde. On est ensemble, on parle parfois de communion fraternelle. Mais si vous allez demander à l'arrêt du tram ici ce que ça veut dire communion fraternelle à n'importe qui, je ne sais pas ce que vous aurez comme réponse. Alors on s'est rassemblés, il y a 80 d'entre nous rassemblés le week-end dernier, pour donner un sens concret à cette communion fraternelle, à cette solidarité qui nous unit, à ce vivre ensemble, et pour faire église, pour faire communauté, il faut aussi faire des choses ensemble, en dehors du culte du dimanche matin. Et on a eu un week-end très chouette, donc j'ai quelques photos qui ont été sélectionnées très rapidement que tu vas pouvoir nous montrer. Moi, je dis merci et j'étais impressionné par l'imagination des organisateurs qui ont bossé énormément pour nous préparer ce beau week-end. On était dans un lieu magnifique, il faisait beau, certains ont fait une promenade avec une vue extraordinaire sur des lacs, non sans quelques efforts avec les jambes, les genoux, voilà. Et puis on avait des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des temps de convivialité avec un grand jeu qui a été, là c'était, je pense Marie-Léa a dû passer des heures à préparer ça pour nous, le jeu du samedi après-midi, et puis aussi le message de Philippe sur ce sujet. Alors voilà, je ne sais pas s'il reste encore des photos, si quelqu'un qui a du week-end voudrait dire quelque chose. Voilà, je laisse passer quelques photos. Est-ce qu'on a déjà vu la photo de groupe ? Non, elle va venir. Voilà. Alors, on tâchera de vous mettre plus tard à disposition les photos d'une manière ou d'une autre. Alors, j'aimerais maintenant simplement prier pour remettre ce culte avant de donner la parole au groupe Louange pour louer Dieu, remercier Dieu à travers les chants. Seigneur, merci pour cette journée d'aujourd'hui. Merci pour ce culte. Merci pour ta présence parmi nous. Et fais sentir ta présence à chacun ici. Peut-être que certains vivent des joies, d'autres vivent des galères. Mais toi, tu es présent dans nos vies. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, chacune de nos familles, nos amis. Et nous te remettons ce temps ensemble. Amen. Voilà.
Je lis quelques versets du psaume 113. Alléluia, vous qui êtes serviteurs du Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez son nom. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lieu où le soleil se lève jusqu'au lieu où il se couche, que tous acclament le nom du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples. Sa gloire monte plus haut que les cieux. Alors que nos chants puissent se rassembler pour glorifier le Seigneur. Hosanna.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir relève, les cœurs soupirent après toi, oui, après toi. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire. Retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
Alléluia. Et maintenant, on va recevoir un cadeau. Vous pouvez peut-être vous rasseoir. Vous avez envie d'un cadeau ? Qui c'est qui aime les cadeaux ? Les enfants, ils aiment bien les cadeaux, mais visiblement, les adultes, ils aiment moins les cadeaux. Vous voulez un cadeau ce matin ? On va tous en recevoir un. Ouais. C'est quoi ce cadeau ?
Si je ne mets pas un peu de mystère, ce ne sera pas un cadeau, alors. Je fais traîner les choses.
En fait, il s'agit d'un cadeau qui a été préparé par deux jeunes filles. Elles sont copines d'école, elles sont voisines. Et puis, elles ont préparé ensemble quelque chose qu'elles veulent nous offrir ce matin. Il s'agit de Ayana et de Ada. Je vous laisse venir déjà ici. Bonjour. Et puis, elles ont préparé une création artistique. Elles l'ont inventée, elles l'ont mise en scène et préparé une danse qu'elles vont nous interpréter maintenant. Elles veulent nous l'offrir. Et c'est ça le cadeau. C'est sur une chanson du groupe Antidote, Artisan de merveilles.
Au commencement, tu étais là. Tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image. Donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi?
Merci Ada et Ayana, artisans de merveilles. Ce Dieu créateur, eh bien, on va continuer de le louer sur le même tempo, peut-être pas tout à fait, mais pas loin, on va essayer. Et on va continuer de le louer ensemble. Ça nous amène à vraiment louer ce Dieu créateur et qui est recréateur chaque jour. Il a des projets par milliers en réserve et puis il attend qu'on lui fasse confiance. Et je lis la suite du psaume 113. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu ? Lui qui réside tout là-haut, il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Du tas d'ordures, il relève le malheureux pour le mettre au premier rang avec les puissants de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maison. Il fait d'elle une mère heureuse au milieu de ses enfants. Alléluia.
Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égard, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne-tu, ô notre Dieu.
Alléluia.
Prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, agneau de Dieu. Que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, tu es glorieux. Force et louange à notre Dieu.
dans la joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as tout fait pour me sauver. Je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, confiant en toi et profonde, dans le doute quand ma tête semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Je te suivrai,
je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix.
Oh, Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai.
Oui, Seigneur, nous voulons te suivre dans nos joies et aussi dans nos difficultés, dans nos faiblesses, quand on a besoin de toi, quand on n'a plus que toi. Toi, tu es toujours là, dans la joie, dans la peine. Merci parce que ce matin, aujourd'hui, tu veux à chacun nous nourrir de ta parole, et nous te remettons les enfants qui maintenant vont continuer leur programme avec les moniteurs. Nous te remettons les moniteurs, les monitrices. Remplis les enfants de ton amour et remplis-nous de ton amour parce que tu nous l'as promis, Seigneur. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver ce matin après effectivement un week-end dernier d'une belle densité, mais où nous étions exceptionnellement absents de Mérin Village. J'aimerais saluer chaleureusement Florence et Charles-Abel Piguet, que nous retrouvons après plusieurs semaines où maladie et faiblesse faisant, vous étiez loin de nous, mais pas du cœur, hein. Et puis ce matin, on est vraiment heureux de vous retrouver. L'église de Mérin n'est pas tout à fait la même quand vous n'êtes pas là. On est heureux de vous retrouver. Bienvenue à chacun, à chacune. Nous aurons un temps Slido, si vous le sollicitez à la fin de la prédication ce matin avec quelques questions. Donc vous pouvez aller sur l'appli Slido, renseigner le numéro du jour et si le cœur vous en dit, posez l'une ou l'autre question que nous prendrons en fin de prédication. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, et surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Vous avez reconnu là, je l'espère, le Notre Père, mais lu dans la version dite de la Bible du Semeur. Dans cette version, les traducteurs ont fait l'impasse sur la version traditionnelle que nous connaissons généralement. Certaines la connaissent même par cœur. Je me souviens, je vous l'avais dit, qu'il m'avait fallu du temps pour me la réapproprier en arrivant ici à Mérin il y a presque 9 ans. Ici donc, les traducteurs font l'impasse sur la version traditionnelle pour rendre l'original en français moderne et pour éviter, selon eux, certaines ambiguïtés. Alors, savoir comment passer du grec au français n'est pas la question la plus brûlante qui se pose ici. Avoir plusieurs traductions, c'est une richesse qui permet de mieux saisir le sens des paroles de l'Écriture. Et je vous encourage à lire dans plusieurs versions et à les comparer. Je relis maintenant le Notre Père, Matthieu 6, 9 à 13, dans la version plus commune, et c'est celle de la Colombe que je vous propose. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un petit mot pour orienter cette lecture et la méditation de ce matin, la dernière que nous avons sur le Notre Père dans cette série. Ce petit mot, c'est le mot de modèle. Un modèle de prière ou une prière modèle, mettez-le dans l'ordre où ça vous arrange. Mais le petit mot modèle. Quand on a différentes traductions, là on n'en a comparé que 2, on se rend compte que des fois ça peut poser un problème d'avoir différentes traductions. En particulier quand il s'agit de dire un texte ensemble ou de l'apprendre par cœur. Le Notre Père, dans sa version traditionnelle, celle-ci, c'est un recours formidable pour des chrétiens malades, pour des chrétiens torturés, pour des chrétiens qui n'ont plus accès au Livre Saint, pour des chrétiens mourants. Quand nous n'avons pas la tête à prier, et ça vous arrive peut-être autant qu'à moi, quand nous n'avons pas la tête à prier, quelques psaumes appris par cœur, ou le Notre Père appris par cœur, peuvent nous aider. En tout cas, je peux l'attester. Combien de fois, devant une difficulté à formuler une prière, je me suis réfugié dans un psaume ou dans le Notre Père. Maintenant, un problème particulier se pose dans nos milieux évangéliques. Faut-il utiliser le Notre Père ? Certaines paroles de Jésus, dans le contexte immédiat, ont été comprises comme l'interdisant. Je cite Matthieu 6, 7 à 8. « Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Eh bien, ne les imitez pas. Car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. » Alors, qu'est-ce que Jésus proscrit dans ces paroles-là ? Il me semble qu'il proscrit de vaines répétitions qui viseraient à forcer la main de Dieu. Mais Jésus n'interdit pas de persévérer dans la prière. Il l'encourage même, la persévérance dans la prière. Et quand on persévère dans la prière, que ce soit tout seul ou en groupe, on va revenir forcément sur les mêmes sujets, parfois avec les mêmes mots. Dans quelle optique ? Imaginez que c'est la quantité qui compte ? Ou se tenir dans la présence de Dieu ? Posément. Consciemment. Exprimer plus fortement notre attente, notre foi. Si on dit qu'on va réciter le Notre Père, on va forcément penser à un truc machinal que l'on fait sans penser même à ce que l'on dit. On récite. Si on dit qu'on va prier le Notre Père, alors on va penser aux paroles. Parfois, l'allergie des évangéliques au Notre Père, elle s'exprime encore par un autre argument. Parce que nous, les évangéliques, nous sommes assez nombreux à penser que de prendre les paroles de quelqu'un d'autre pour les prier, c'est vraiment pas le top. Nous avons, nous, la culture de la spontanéité. Et c'est pas forcément mauvais. Mais notre culture de la spontanéité, à nous évangéliques, elle est très sélective. Parce que nous ne l'appliquons pas, heureusement, à la lecture des psaumes. On lit des psaumes. Et pourtant, les psaumes sont des paroles écrites par d'autres. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais c'est écrit par quelqu'un d'autre. Puis on se l'approprie. La culture de la spontanéité, elle ne s'applique pas trop aux cantiques non plus. Et là, chers amis, tous les dimanches, nous prions tous la même chose en même temps avec les paroles de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sont de vaines redites, nos cantiques ? Oui, si on ne pense pas à ce qu'on chante. Vous vous rendez compte de ce qu'on a chanté tout à l'heure ? On est dingo. Jésus, je te suivrai. On est fou de chanter ça. Surtout si ça ne matche pas derrière. Et honnêtement, combien de fois je dis ça et après je dois dire j'ai vraiment les jetons de te suivre. J'ai la trouille. J'y arrive pas. Et pourtant, on le chante. Mais ce ne sont pas de vaines redites. Parce qu'on essaye de les chanter avec du cœur et de l'intelligence. La seule question qu'il faut donc se poser au sujet du Notre Père, c'est comment le prier avec intelligence. Et c'est là qu'intervient l'idée que le Notre Père est un modèle de prière, une prière modèle. Seigneur, apprends-nous à prier, demandent les disciples en Luc 11. Et la réponse de Jésus, c'est de donner un modèle. On apprend à prier avec des modèles. On apprend à grandir avec des modèles. On apprend un métier avec des modèles. On apprend à prier avec un modèle. Il faut qu'on le regarde de plus près une dernière fois et je m'arrêterai un petit peu plus longuement sur la dernière partie. La première partie, nous l'avions dit, elle est centrée sur Dieu et son honneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ou que tu sois reconnu pour Dieu. Ce n'est pas des premiers mots banals, ça. Hein ? Dire « notre Père », c'est reconnaître d'emblée qu'on n'est pas tout seul. Je ne suis pas une île. Je ne suis pas unique. Je me place au milieu de tout un peuple. Notre Père. Et dire « notre Père », c'est mettre l'accent tout de suite non sur la force de Dieu ou sur la sainteté de Dieu, ça viendra, mais sur son amour. C'est venir au-devant de lui, pas parce qu'on est mort de peur, mais parce qu'on a confiance. Notre Père. Et aussitôt après, on exprime un vœu. Que ton nom soit sanctifié ou que tu sois reconnu pour Dieu. Si nous demandons cela, ça veut dire qu'on cherche à honorer Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ce soit aligné dans ma vie. Que ma vie dise quelque chose de ta sainteté. Et puis, en même temps, nous souffrons de ce que le nom de Dieu, la personne de Dieu, ne soit pas honoré par tout et par tous. Alors nous prolongeons la demande en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons que Dieu règne en nous. Nous voulons qu'il règne dans l'Église. Nous voulons qu'il règne dans le monde. En Ukraine aussi. Dans la bande de Gaza. Où chaque jour que Dieu fait, des dizaines de personnes perdent la vie. Des enfants, des femmes, des vieillards perdent tout. Il est où le règne de Dieu ? Nous l'appelons de nos voeux. On ne peut pas faire grand-chose. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé par ce qui se passe en RDC. Je suis dépassé par ce qui se passe dans le domaine de la prostitution forcée en Asie du Sud-Est. Mais je prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Nous voulons qu'il règne en nous, qu'il règne dans l'Église, qu'il règne dans le monde. Et cette prière, elle peut être coûteuse, comme elle a été coûteuse pour Jésus. Ne le prions donc pas si nous ne nous y engageons pas. Nous prions ainsi parce que nous voulons que les choses changent. Et nous croyons que Dieu est capable de répondre. Quand notre adoration se trouve en face du monde, elle se transforme en intercession. Et notre intercession se transforme en engagement. Je le redis. Quand notre adoration se retrouve en face du monde, notre adoration se transforme en intercession. Et notre intercession aboutit à un engagement. Priez avec intelligence. Toute la première partie, elle concerne Dieu et sa gloire. La deuxième partie, elle nous concerne, nous autres, plus personnellement. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ou donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Et je pense que vous l'avez bien compris, hein. Le pain, il se dit pour toute la nourriture. Et même, par extension, pour tout ce qui fait les conditions matérielles de l'existence. Et puisque c'est une prière modèle, Nous allons penser au travail aussi. Nous allons penser à une retraite décente. Nous allons penser à la santé, à l'éducation, au logement. Mais remarquez la subtilité ici. C'est pour aujourd'hui. Je sais qu'il est légitime de prévoir l'avenir et c'est même plutôt nécessaire. Mais en fait, nous chrétiens, nous exprimons notre confiance en Dieu au jour le jour. Nous vivons en Suisse ou en France une période d'abondance qui n'a rien à voir avec ce que nos propres parents ou grands-parents ont vécu à la fin de la guerre. Là, souvent, ils ne savaient pas d'un jour à l'autre comment ils allaient nourrir leur famille. Et aujourd'hui, en France comme en Suisse, il y a encore beaucoup de gens dans cette situation-là, malgré une certaine protection sociale. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donne-nous à notre famille, à notre famille qu'est l'Église, à notre peuple, à notre humanité. Et quand Dieu a donné, mais que la bêtise et la gourmandise humaine ont ôté et accaparé, prions pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le pain de ce jour, c'est le pain nécessaire. C'est ce qu'on lit dans les traductions modernes. Le pain nécessaire, ou le pain qu'il nous faut. L'implication, c'est que nous, chrétiens, nous ne vivons pas dans le luxe et la surabondance. Nous vivons dans une certaine simplicité qui s'inscrit à la suite du Christ. Et puis au-delà de nos besoins matériels, nous prions pour nos besoins spirituels. Pardonne-nous nos offenses ou pardonne-nous nos torts envers toi. Et littéralement, là, le texte grec parle de dette, ce qui souligne que le péché, notre péché, est d'abord une offense contre Dieu. Et je trouve frappant que cette demande, pardonne-nous nos péchés, arrive non pas au début de la prière, comme une condition pour le reste, mais au milieu de la prière. C'est parce que nous reconnaissons Dieu comme notre Père, que nous prenons connaissance, conscience de nos fautes envers lui. Et c'est parce que nous avons confiance en lui que nous lui demandons pardon. Et cette demande de pardon est la seule partie du Notre Père qui reçoive un commentaire. Elle est assortie à une condition, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, j'ai vu mille fois des gens s'étrangler. Parce qu'ils savent, parce que je sais, qu'une très grande rancœur peut nous habiter. Et qu'il faut parfois un long chemin, un très long chemin, avant de pouvoir se libérer de certains fardeaux, de cette rancœur. Mais quand nous prions ainsi et que nous nous rendons compte que le pardon ne vient pas, c'est déjà un progrès. Bravo. C'est peut-être dans certains cas une incitation à demander de l'aide. Troisième demande sur le plan spirituel. Et je m'arrête un peu. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ou garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Encore une fois, quelques difficultés de traduction ici. Parce que le grec ne permet pas de distinguer entre le mal, la personne mauvaise, c'est-à-dire le diable, ou le malin. Le contexte ici, il va nous inciter à avoir une allusion pas au mal physique comme le cancer ou Alzheimer, mais le mal moral, spirituel, ce mal dont le diable, de près ou de loin, est l'instigateur. Puis deuxième difficulté, le mot « tentation », il pourrait être traduit tout autrement pour dire « épreuve ». C'est le même mot en grec. C'est le même genre de problème. Un seul et même événement peut être une tentation qui nous pousserait au mal ou une épreuve qui testerait et affermirait notre foi. Le même mot. Sachant que nous sommes vulnérables, nous prions, nous, pour ne pas être soumis à des épreuves, pour que l'épreuve ne devienne pas une tentation et que la tentation n'aboutisse pas à notre chute, à notre défaite, au péché, au mal. Jésus a été tenté. Il a prié à Gethsémané pour avoir la force d'aller jusqu'au bout de sa mission. Et il est un exemple pour nous. C'est possible de vaincre la tentation, de tout abandonner. Ne nous soumets pas à la tentation. La traduction que nous utilisons aujourd'hui laisse entendre que Dieu pourrait volontairement nous envoyer du mal pour nous tenter, pour nous mettre à l'épreuve. Vous avez cette image de Dieu, vous ? Un Dieu qui volontairement interviendrait dans votre vie pour vous mettre en situation périlleuse. La demande serait alors de le supplier, de ne pas nous envoyer d'épreuves supplémentaires. Tu vois la dèche dans laquelle je suis, Seigneur, n'en rajoute pas une couche, s'il te plaît, j'ai vraiment la trouille que tu le fasses. C'est quelle image de Dieu, ça ? Parce qu'une telle lecture, elle serait opposée au plus grand courant de la pensée chrétienne qui pense que Dieu ne peut en aucun cas être source de mal. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Cette théologie, elle existe. Puis en même temps, elle n'est pas partout dans les Écritures. Encore une fois, on ne peut pas être monolithique, nous, chrétiens. Il y a des nuances dans l'Écriture, en particulier quand je pense à la mise à l'épreuve d'Abraham. Et puis, ce n'était pas un petit truc, hein. Ce n'était pas un choix de pneus sur la voiture. C'était, est-ce que tu es capable de sacrifier ton fils unique pour moi ? Et c'est Dieu qui l'envoie. Je pense au livre de Job. Où le mal, alors, il faut être clair, n'est pas vraiment envoyé par Dieu, mais très certainement permis avec son consentement. Donc, il n'y a pas unanimité dans la Bible. Par contre, en 21e siècle, je constate que l'évolution qu'on trouve dans notre théologie contemporaine, c'est de rendre Dieu de plus en plus indépendant du mal qui arrive sur la terre, ou qui nous arrive à nous tout simplement. On ne veut pas trop en entendre parler, que Dieu soit à l'origine d'un mal qui nous arrive. Les textes les plus anciens voient Dieu source du bien comme du mal. Et les textes les plus récents et notre théologie moderne font intervenir l'action du diable pour désigner l'origine du mal, de façon à ce que Dieu ne puisse jamais être mêlé au mal qui nous arrive. Mais une fois de plus, si on revient au texte original, il y a un certain nombre de choses qui s'éclairent. Ne nous soumets pas à la tentation. Ce mot grec, il a un double sens, perasmon. Il s'agit à la fois de la tentation et de l'épreuve. Ce qui veut dire que la tentation peut être une mise à l'épreuve. Mais on peut aussi dire que dans toute épreuve, il y a une tentation. Celle de baisser les bras, celle de s'avouer vaincu par cette épreuve, celle de cesser de lutter contre elle. Et là encore, s'il s'agit de lutter contre une épreuve, il va de soi que cette épreuve ne peut pas venir de Dieu et nous n'avons en aucun cas à lutter contre quoi que ce soit qui nous serait servi par Dieu. Et puis la traduction de soumettre, elle n'est pas la plus juste non plus. Le verbe n'est pas un verbe difficile en grec. Eisenekein, facile comme verbe. Et il ne comporte aucune notion de soumission, pas du tout. Ce mot, il signifie faire entrer quelque part. C'est le verbe qui est utilisé dans l'évangile pour désigner l'action des amis du paralytique qui le font entrer dans une maison pour que Jésus le guérisse. Alors la forme verbale utilisée, elle peut désigner indifféremment une action qui vient de Dieu lui-même ou une action que Dieu laisserait faire. Il faudrait donc plutôt traduire « ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve » ou encore « fais que nous ne soyons pas introduits dans l'épreuve comme enfermés dans une maison ou dans une cellule ». Et c'est là ce que nous pouvons demander à Dieu. Qu'il nous donne une porte de sortie, qu'il nous libère, qu'il ouvre devant nous un grand passage, comme il a libéré le peuple d'Égypte, lui ouvrant un passage dans la mer Rouge. On pourrait même alors justifier la traduction habituelle que j'interrogeais tout à l'heure. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que nous ne soyons pas des soumises et des soumises dans l'épreuve. C'est que nous ne soyons pas irrémédiablement vaincus par l'épreuve. Qu'on ne perde pas notre autonomie, notre dignité, notre liberté, mais que nous puissions relever la tête sans rien perdre de notre espérance, sans être perdus, anéantis par l'épreuve. Une des plus anciennes traductions de ce texte disait « ne nous laisse pas succomber dans l'épreuve ». C'était infidèle au sens des mots. Il n'y avait aucune littéralité, mais le fond restituait le sens de la demande. Ne nous laisse pas succomber dans l'épreuve. Seigneur, tu vois ce que je traverse maintenant. Ne me laisse pas y laisser ma vie. Mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. La suite de la demande, la fin de la demande, dit le plus précisément possible ce que nous venions de trouver. S'ajoute une précision essentielle. La demande du Notre Père concerne ce mal qui pourrait nous arriver parfois. Il ne s'agit en aucun cas de demander qu'il ne nous arrive pas de mal, mais que Dieu nous en libère. Voyez la différence. L'action de Dieu n'est pas vue comme intervenant sur le mal lui-même, mais sur le croyant, sur la croyante. La question n'est pas de savoir si Dieu ne peut pas ou ne veut pas nous éviter des épreuves, mais d'avoir l'intime conviction que Dieu peut nous en libérer quoi qu'il arrive. Le mal existe, il reste là. Il nous influence, mais nous pouvons devenir libres par rapport à lui. C'est ce qu'on retrouve dans ce fameux psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. » C'est quoi l'action de Dieu quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort? Il m'emmène en haut du Cervin? Il me fait voir des paysages rayonnants autour? Pas du tout. Même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est ça l'action de Dieu. Là même, quand les disciples sont sur cette mer déchaînée, qu'ils sont menacés, qu'ils craignent pour leur vie, le Christ ne fait pas disparaître la mer. Il ne l'écarte même pas, comme les auteurs de l'Ancien Testament croyaient que Dieu l'avait fait pour eux avec la mer morte, la mer rouge. Mais il fait en sorte que, tout en restant sur la mer, une mer de menaces et de morts, les disciples n'aient plus peur, qu'ils retrouvent confiance, qu'ils ne perdent pas leur vie. Ils sont alors libérés de la peur, du mal et de la mort. Ils sont sauvés. Et on arrive à la fin de la prière. Et on revient à une confiance, à une expression de confiance et d'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Il est impossible de savoir si cette dernière phrase est vraiment de Jésus ou si c'est un rajout qui s'inspire plutôt de l'Ancien Testament. Et si vous avez une Bible papier sous les yeux, vous verrez que dans les notes en bas de page, on trouve plein de commentaires à ce sujet. Ce qu'on peut dire, c'est que sans cette phrase, on aurait l'impression que quelque chose n'est pas vraiment terminé. On finirait la prière avec le diable ? Avec le mal ? Non. Non. On finit en redisant la grandeur de Dieu qui peut exaucer nos prières et que nous cherchons à honorer sur la terre. Si la phrase n'était pas de Jésus lui-même, ce que je pense, nous aurions une preuve de plus que Jésus n'aurait pas voulu nous laisser avec une forme liturgique bien sculptée, mais nous donner un exemple, un modèle, un exemple ouvert sur nos prières à nous. Et c'est nous qui terminerions la prière en donnant grâce à Dieu. Voilà pour la prière modèle. À reprendre mot par mot. Parfois, en y mettant toute notre concentration, toute notre intelligence. Une prière modèle qui nous permet de créer des prières qui viennent de notre expérience personnelle. Aussi, en guise de conclusion, je vais distribuer des tableaux avec la prière et des cases blanches. Je vous invite à mettre quelque chose, si vous pouvez les distribuer, je vous invite à mettre quelque chose là, dans les cases blanches qui sont proposées. Et puis, on va reprendre la prière. On va la reprendre ensemble, et puis je vais m'arrêter phrase par phrase. Et là, vous pourrez dire un mot, une phrase, un mot à vous qui vous appartient. Puis s'il y a des choses trop personnelles pour être dites à haute voix, pour être même murmurées, ce n'est pas grave. Je marquerai un temps d'arrêt. Puis on continuera la prière. Mettez quelque chose de votre cru dans les cases. C'est une incitation, pas une obligation. Je vais lire ce texte et je vous propose à chaque fois de compléter la phrase par un mot, une pensée à vous. Et encore une fois, si c'est trop perso, gardez-le pour vous. Notre Père qui es aux cieux. Je te remercie de ce que tu es, mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Aide-moi à te reconnaître comme saint. Que ton règne vienne. Oh, j'aimerais qu'il se déploie à Gaza en particulier, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci pour les biens. Merci pour mon salaire qui est tombé hier. pardonne-nous nos offenses. Mes fautes sont immenses, Seigneur. J'ai besoin de ton pardon. Comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. J'y arrive pas toujours et j'ai besoin de toi. Ne nous soumets pas à la tentation. Tu les connais, les miennes. Aide-moi à en sortir sans dommage. Mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Trois très bonnes questions. Jésus a été tenté et il a résisté. Mais qu'advient-il de nous qui cédons à la tentation? Je ne vais pas répondre avec une réponse personnelle, mais avec une réponse de l'Écriture. Hébreux 4, verset 14. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y trouverons la bienveillance et la grâce pour être secourus au bon moment. Ça, c'est génial. Jésus qui a tout connu, je veux dire, sur la gamme de la tentation, il n'y en a pas une qu'il n'a pas connue. Je sais, c'est compliqué parce que nous, on pense à Jésus puis on se dit, ouais, mais quand même pas ça. Il n'a pas été tenté de piquer dans la caisse. Il n'a pas été tenté de partir avec la femme de la voisine, du voisin. Jésus, il n'a pas pu être tenté par l'homosexualité. Si nous disons ça, nous disons qu'il est incapable de nous aider. Et sérieusement, si vous dites ça, changez de crèmerie, vraiment. Vraiment, changez de crèmerie, parce que vous allez être déçus. Mais si nous disons que Jésus en tout a été tenté comme nous le sommes, et qu'il a gagné, alors on peut s'approcher de lui avec confiance pour trouver, écoutez quoi, pas du jugement, pas de l'expulsion, pas une théorie qui t'enferme, pas une thérapie de conversion. Nous trouvons la bienveillance et la grâce dont nous avons besoin pour être secourus. C'est pour ça que j'aime tellement le Seigneur, parce qu'il m'aide. Est-ce que la culture de la spontanéité est une forme d'orgueil, une envie de nouveauté, d'avoir plus? Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas forcément. Parce que spontanément, David a écrit des psaumes, une pété. Et je ne pense pas qu'il était dans l'orgueil en les écrivant à lire ce qu'il a écrit. Mais nous nous en nourrissons. La spontanéité, elle a sa place. Nous voyons ça ailleurs dans les Écritures, en particulier dans le livre des Actes. Il y a de la place pour la spontanéité, mais il n'y a pas non plus besoin de tout réinventer. Parfois, nous pouvons nous réfugier dans des choses qui ont été écrites par les autres, et parfois, il nous faut laisser parler notre cœur. Et une dernière question. Modèle. Est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre nos mots pour personnaliser cette prière? Oui. Mille fois oui. Laissez-vous inspirer par la parole de Dieu qui est inspirante. Mais mettez-y vos mots, y compris ceux qui sont moins lisses que ceux qu'on ose dire depuis ici. Mettez vos mots. L'important, c'est de prier Dieu. Ce n'est pas les mots, c'est le cœur. Allez-y.
Jésus nous a laissé une prière, prière communautaire, prière modèle. Il nous a laissé, dans le même évangile, selon Matthieu, un geste en souvenir de sa vie donnée, un geste qui signifie le summum de l'amour de Dieu, qui signifie l'étendue de son pardon, et la puissance de vie de celui qui est ressuscité. Pendant le repas, le dernier repas avec ses disciples avant la crucifixion, pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. Et il leur dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe de vin, et après avoir remercié d'eux, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le règne de mon Père. Avec vous. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Nous vous invitons à partager ce. Je demande aux personnes qui ont dû venir.
Qui ont dû partir pour deux d'entre elles.
Ils sont, oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a deux autres personnes qui peuvent nous rejoindre pour aider à distribuer ?
Trop bien.
Alors, merci. Alors, je... Nous prions. Seigneur,
merci.
Que nous reconnaissions, que nous te reconnaissions ta présence, que nous reconnaissions ton amour, que nous reconnaissions ton pardon en partageant ce repas comme tu l'as partagé avec les premiers disciples. Amen. Donc ceux qui souhaitent prendre la coupe, faites signe et Philippe vous apportera la coupe. Alors, je vous invite pour ceux qui le souhaitent à exprimer des prières spontanées. Elles ont leur place très librement pendant ce temps de partage de la scène. Seigneur, que ton amour imprègne nos vies, que ton pardon reçu nous donne la force de pardonner, et que l'esprit par lequel tu as servi toutes les personnes autour de toi nous inspire, nous imprègne dans toutes nos journées. Amen. Invite le groupe de musique louange à venir et nous allons chanter un chant et en même temps prendre notre offrande. Rappelle comme chaque fois que l'Église vit des dons. tout à fait libre de chacun. Alors, est-ce que je peux avoir deux ou trois personnes pour passer les paniers ?
Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Chaque jour, un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
Asseoir. Seigneur, merci pour cette offrande. Donne-nous la sagesse en tant qu'Église dans la manière de la gérer. Donne-nous aussi à chacun de nous ta sagesse dans la manière de gérer les biens maternels, les biens matériels, dans la simplicité, comme nous y invite l'Évangile. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà quelques annonces. Dimanche prochain, c'est Stéphane Fritz qui... Stéphanie Fritz, donc de l'Église baptiste de...
Genève.
L'Église baptiste de Genève, d'accord, voilà. Et Philippe qui sera à l'Église baptiste, donc pour un échange de chair, comme on dit, voilà. 9 juin à 18, 9 juin, c'est dimanche. C'est dimanche 9 juin, oui, c'est, voilà. C'est lundi 9 juin.
C'est le lundi de Pentecôte.
Ah, alors lundi 9 juin, donc contrairement à ce qui est écrit sur la diapositive, le lundi 9 juin, 18h à 19h, espace louange à la chapelle, voilà. Je vous rappelle le colloque du vendredi 13 juin, lors duquel le nouveau conseil sera élu. Les personnes qui sont inscrites comme membres et qui ont reçu par la poste déjà le matériel. Et puis, Ethnopolis, au début de juillet, ça c'est Thierry qui va nous... Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah, mais j'ai pris un mauvais papier. Oui, Mérin-les-Bains, je raconte des histoires. Désolé, Mérin-les-Bains, le 7 juillet.
Oui, voilà, normalement c'est Claude qui se charge de ça, hein, mais comme vous le savez, Claude est en train de se balader avec sa femme. Une grande balade. Et alors, c'est une autre histoire. Normalement, ils nous suivent. J'avais prévu de les saluer, mais ça n'a pas marché ce matin. Donc voilà. Mais j'ai eu un petit contact sur WhatsApp avec lui. Ils vont bien. Voilà. Donc c'est moi qui le remplace pour cette année. Mérin-les-Bains, ça a lieu toutes les années, hein, depuis déjà pas mal d'années. Je ne sais pas depuis quand exactement. Et on aime y participer en tant qu'église. En fait, toutes les associations qui le veulent à Mérin participent à Mérin-les-Bains. Donc c'est sur. J'ai les dates là, mais. Voilà, alors le 7 juillet, c'est nous, mais c'est sur plusieurs semaines. Chaque jour, il y a une association ou plusieurs associations qui proposent quelque chose, qui font à manger, qui servent à la buvette, etc. Ça permet aussi de faire un peu de sous pour l'association en question. Mais ce n'est pas notre but premier. Notre but premier, c'est d'être présent, de dire qu'on fait partie de Mérin, nous aussi, Église évangélique, et puis que les gens nous voient, qu'ils puissent discuter avec nous s'ils en ont envie. Donc voilà, on trouve important d'être là et de dire qu'on est là et puis d'être visible. J'aurais besoin de pas mal de volontaires, une trentaine pour que tout se passe bien. Il y a toutes sortes de jobs, hein, allant de la buvette à l'animation du soir. On va présenter un film, il faudrait un petit peu d'aide pour la vaisselle, préparer différentes choses. Il y a déjà une équipe qui se met en place pour proposer une raclette. Donc voilà, je passerai avec mes petites feuilles d'inscription vers vous tout à l'heure. Si vous êtes déjà en train de vous dire « oui, absolument, je veux participer », vous pouvez déjà venir vers moi sans que je vous cours après. Mais voilà, merci beaucoup si vous pouvez faire de cela une priorité, si vous êtes là, bien sûr, pour qu'on puisse être présent durant cette manifestation mérinoise. Merci d'avance.
Donc il y a bien la raclette.
Il y aura la raclette.
Avec le four à raclette maison des Cretenis qui vaut le détour. Voilà, je vous invite à vous lever pour la bénédiction. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus rencontre une toute dernière fois ses disciples qui ont encore des doutes. Il les envoie pour partager le message de l'évangile auprès de tous les peuples et il leur donne cette promesse, et sachez-le, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bon dimanche et bonne semaine, dans cette présence promise de Dieu au cœur de nos vies.